Vous écoutez
RMC. Face à face, Neila Latrousse.
Il est 8h37 sur RMC et BFM TV. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour.
Député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale. Merci d'être avec nous ce matin. En temps normal, je vous aurais demandé si vous étiez satisfait du nouveau gouvernement et vous m'auriez dit non. Mais là, vous avez quand même un motif de satisfaction, hein ?
Non, écoutez, je crois d'abord que c'est pas la vraie actualité qui préoccupe les Français. Moi, j'ai été troublé hier de voir que la vraie actu, c'est que, et c'est les chiffres qui sont sortis hier, c'est que 9 millions de Français sont en situation de précarité. Je veux le dire parce que...
Non, mais on reviendra sur l'actualité, oui, sur le reste de l'actualité, Sébastien.
On s'intéresse à la politique, évidemment, mais je trouve que le vrai fait hier, c'était celui-ci.
Ma première question est sur le remaniement. Est-ce que le départ de Pape Ndiaye, c'est une victoire pour vous?
Non, mais vous savez, même quand on n'entend rien avec eux, on est déçu. Oui, d'accord, le départ de Pape Ndiaye, c'est bien, mais c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, ce remaniement. Pape Ndiaye était en situation d'échec. C'était un ministre que nous avons beaucoup combattu parce qu'il était wokiste, parce qu'il a eu des propos sur la France, et des écrits même sur la France qui étaient absolument insupportables. Donc, ok, bonne nouvelle, bon débarras.
Je rappelle les mots de Marine Le Pen, hein. Ce choix de mettre un homme qui défend l'indigénisme, le racialisme et le wokisme à la tête de l'éducation nationale, c'est un choix terrifiant pour les parents et grands-parents que nous sommes. C'est ce qu'elle écrivait l'an dernier lors de sa nomination. Mais en un an, l'école n'est pas devenue le temple du wokisme, du racialisme et de l'indigénisme.
Non, mais Pape Ndiaye a abandonné les principaux de collège aux problématiques de port de abaya parce qu'il n'avait pas le courage de s'attaquer à l'entrisme de l'islamisme. Pape Ndiaye a été incapable de nouer une relation de confiance avec les enseignants, avec les familles. Il a été aussi incapable de travailler sur toutes les problématiques de harcèlement scolaire. Moi, j'ai déposé une proposition de loi d'ailleurs en ce sens, Pape Ndiaye ne s'est pas attaqué à tout ça. Bon, en plus d'être idéologiquement quelqu'un de très marqué, un déconstructeur absolu, il a été une nullité affligeante. Donc oui, bon débarras, tout le monde est content
de
Pape Ndiaye.
Et je pense que tout le monde est content. L'arrivée de Gabriel Attal, qui hier a évoqué la laïcité, qui a évoqué l'autorité de l'enseignant, qui a évoqué le harcèlement scolaire, le remplacement des profs, c'est une bonne nouvelle ?
Oui, alors, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que le discours est très différent. Mais moi, je me méfie des discours de Gabriel.
Vous avez senti la rupture des hier ?
Oui, probablement. Il n'y a pas la même approche, c'est une évidence. Enfin, Gabriel Attal, il parle beaucoup. Hein. Je me souviens, quand il était au compte public, il y a donc encore quelques heures, il devait faire la chasse aux fraudeurs. Le résultat ne nous semble pas vraiment à la hauteur. Donc, il a une culture du mouvement des jeunes socialistes. Il a une culture de quelqu'un dont on va attendre de le voir à l'œuvre. Sincèrement, moi, je ne lui fais pas de procès d'intention. Il a dans le discours, il est en rupture avec Pape Ndiaye. On va voir si réellement il arrive à s'attaquer aux problématiques de laïcité, à s'attaquer aux grands défis de l'autorité à l'école et puis aussi du niveau et bien entendu de la situation des enseignants. Donc il a un chantier énorme face à lui. Pape Ndiaye a été en échec total dans sa mission. Gabriel Attal parle, on peut le rejoindre dans le discours, on peut comprendre ce qu'il dit, on peut avoir des points d'accord, mais je me méfie des grands discours, d'autant plus que dans ce gouvernement, parler, c'est souvent la seule chose qu'il sache faire.
Sébastien Chenu, il est déjà pris pour cible, hein, Gabriel Attal. Alors, pas par vous, par un soutien d'Éric Zemmour, l'ancien ministre et fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers. Tweet qui a scandalisé à gauche dans la majorité, qui n'a suscité pour l'instant aucune réaction dans votre camp. Je vais vous le lire. La nomination de Gabriel Attal, écrit Philippe de Villiers pour remplacer Pape Ndiaye, c'est la catastrophe de l'été, c'est le passage du woke au LGBT. Est-ce que ça vous choque comme
Vous voyez, moi, je suis face à vous ce matin, donc je peux réagir, et je trouve que c'est consternant. Venant de quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui est quelqu'un qui a un certain niveau, on n'attend pas des attaques personnelles sur ce nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Vous ne faites pas ce procès-là d'être communautariste, Gabriel Attal, parce que je vous entends Philippe de Villiers dans un tweet qui, encore une fois, a beaucoup scandalisé.
Je ne vois pas en quoi la vie privée de Gabriel Attal en fait un acteur du communautarisme, pas du tout. Donc je trouve que c'est un propos qui est déplacé, venant de Philippe de Villiers. Je n'y souscris pas et je trouve que ce n'est pas au niveau du combat politique que nous devons mener. Mais pour revenir sur ce remaniement, sincèrement, quand on fait un remaniement, c'est pour dire quoi ? Ou c'est pour changer de cap politique, c'est pour donner une nouvelle orientation. Or, il n'y a pas de nouvelle orientation. D'ailleurs, il n'y a pas d'orientation depuis législative.
Il y a une prise de parole tout à l'heure d'Emmanuel Macron en ouverture du Conseil des ministres.
Enfin, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron change radicalement la position qui est la sienne, l'orientation de ce gouvernement. Ou alors, c'est pour élargir sa majorité. Il n'y a pas d'élargissement. Ils se sont au contraire rétrécis. On voit bien, ce sont les acteurs fidèles de la Macronie. Les gens qui rentrent au gouvernement sont archi fidèles. Ce sont des acteurs historiques, parfois même hystériques, de la majorité macroniste.
Vous pensez à qui ?
je pense à tous ces députés qui ont souvent parlé fort pour défendre Emmanuel Macron, sont des archi-fidèles, soumis, fans d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas d'élargissement, il y a un rétrécissement. Je pense que c'est un gouvernement qui rétrécit, tout comme cette majorité
puisque
rétrécit.
Puisque vous évoquez les députés, en attendant, donc le travail parlementaire se poursuit. Je rappelle que vous êtes vice-président aussi de l'Assemblée nationale, avec une loi d'urgence qui a été votée hier, qui doit permettre de reconstruire les dégâts causés par les émeutes de fin juin. Loi donc définitivement votée, unanimité au Sénat, quasi-unanimité à l'Assemblée. Mais votre groupe, le Rassemblement national, a voté contre. Pourquoi ? Vous ne souhaitez pas reconstruire ? Vous souhaitez priver les communes
Pas du tout,
des aides pour reconstruire
personne.
Les dégâts.
Simplement, il faut que vous compreniez bien une chose, c'est que nous ne sommes pas là pour faire comme les autres. Nous ne sommes pas là pour mener les mêmes politiques que les autres, qui depuis 40 ans amènent les résultats que nous connaissons. Et nous ne sommes pas là pour que les Français, les contribuables, avec leur argent, qu'on leur pique du matin au soir, viennent à nouveau reconstruire, participer à la reconstruction de ce qui a été détruit par des émeutiers.
Donc on fait quoi ? On laisse tout détruit ?
Pas du tout. Il y a une différence de philosophie extrêmement forte dans ce qui nous anime et ce qui anime le gouvernement. Il y a 650 millions d'euros minimum de dégâts, dont 30% sont liés aux collectivités locales. Ce projet de loi visait d'abord à faciliter...
C'est pas un texte budgétaire, hein, c'est un texte qui lève...
Exactement ce que j'allais vous dire. Vise d'abord à lever un certain nombre de contraintes urbanistiques, administratives, etc. Et nous avons voté l'article sur ces contraintes administratives. Mais ce qui manque à ce texte de loi, la philosophie que nous n'acceptons pas et à laquelle nous ne voulons pas souscrire, c'est le fait de faire payer les casseurs. Nous n'acceptons plus que ce soit les Français, les contribuables, quels qu'ils soient, qui soient mis à contribution. Eh bien, on fait payer.
Des délinquants pour reconstruire, par exemple,
expliquer.
Les deux écoles de la Verrière
je vais vous expliquer.
Qui ont été brûlées.
On doit mettre dans ce pays un simple principe qui est celui de casseur-payeur. On connaît le principe d'ailleurs pollueur-payeur. Eh bien, casseur-payeur. Lorsque vous cassez, eh bien, vous devez être sanctionné. Et l'argent qu'on peut récupérer, que ce soit via des amendes, tout le monde n'est pas insolvable, eh bien, doit être redirigé vers les constructions, vers la réparation. Et si vous avez cassé, vous allez devoir payer, y compris jusqu'à la fin de vos jours, y compris lorsque vous trouverez un boulot, on vous fera une saisie sur salaire, y compris
c'est
lorsque vous aurez...
une condamnation derrière à vie, en quelque sorte.
Quand vous avez cassé, vous devez vous acquitter de votre réparation, tout au long des mois et des années qui viennent.
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de réhabilitation, quelqu'un qui aurait cassé,
quand vous avez terminé de payer, eh bien, vous êtes réhabilité. Mais je veux dire, il faut mettre des principes qui sont différents. Aujourd'hui, les Français ne peuvent plus accepter, et nous n'acceptons pas en tous les cas, qu'on revienne sans arrêt à la case départ, comme si de rien n'était, en disant, bah, écoutez, il y a eu des émeutes, aucune leçon n'en est donnée, et à la fin, on demande encore aux Français de mettre la main à la poche.
Sébastien Chenu, s'il n'y a pas de réparation, si c'est l'État qui s'efface en quelque sorte, il y a aussi ce risque de voir ce que l'on a vu, les images de Nice, de Cavaillon, où les autorités publiques soupçonnent des trafiquants de drogue d'avoir repris la main, d'organiser des kermesses, d'organiser la solidarité en local. Donc en fait, c'est l'État qui capitule si on ne reconstruit pas.
Ah mais l'État a capitulé depuis longtemps. Vous savez ce que disait Anatole France, il n'y a plus d'État, il n'y a que des administrations. Et c'est un peu ce à quoi nous sommes aujourd'hui.
Mais ne pas reconstruire, c'est pas l'État qui s'efface et qui laisse la main précisément
à la débrouille. Ça a été la politique de la ville pendant 40 ans. C'est-à-dire, on a réparé des vitres, on a réparé des ascenseurs, on a réparé des escaliers, on a repeint des quartiers. Moi, je ne suis pas pour qu'on abandonne la politique de la ville et des quartiers. Moi, par exemple, je soutiens un plan ANRU dans ma ville de Denain. L'ANRU, c'est Jean-Louis Borloo qui l'a monté. Ça fonctionne plutôt bien. Mais je suis contre le fait qu'on disperse de l'argent public à des associations comme on le fait depuis 40 ans, tout simplement pour tenir les quartiers, pour acheter la paix sociale. Le rétablissement de l'autorité. Et d'ailleurs, vous parlez des problématiques de drogue dans un quartier de Marseille, je crois, de Cavaillon. Je rappelle qu'il y a un an, Gérald Darmanin le racontait sur votre plateau, qu'il allait faire fermer tous les points de deal en France. Un an après, échec total. Je veux dire, quand on ne sait pas faire, quand on ne veut pas faire, comme Gérald Darmanin, on n'annonce pas des choses pareilles.
Mais est-ce que c'est pas pire de voter, par exemple, contre une loi qui permet des équipements, des écoles?
Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, c'est pas cette loi qui va empêcher ou pas de reconstruire. Cette loi, elle vise à lever un certain nombre de barrages administratifs. Nous disons que cette loi ne fait pas son boulot, et c'est pour ça que nous ne la votons pas, parce qu'elle ne permet pas de faire entrer dans le cadre de la loi le principe du casseur-payeur. Le rétablissement des autorités dans notre pays. Je dis des autorités parce que c'est dans l'éducation nationale, on en a parlé, c'est évidemment dans la justice, on en a parlé, mais c'est aussi à l'école. C'est un chantier extrêmement important. Aujourd'hui, ce gouvernement est en échec total. Par exemple, sur l'excuse de minorité, ça coûte pas un euro, l'excuse de minorité, de revoir ce dossier de l'excuse
de
minorité.
C'est une demande récurrente du Rassemblement National.
J'ai déposé là aussi une proposition de loi avec l'ensemble des députés du Rassemblement National, avec Marine Le Pen, pour qu'on revoie l'excuse de minorité, qu'on puisse lever cette excuse de minorité. Le gouvernement ne s'y engage pas. La suppression des allocations familiales pour des mineurs ou des délinquants multirécidivistes, je précise.
C'est une mesure symbolique. On sait que 60% étaient des primo-délinquants sur ces émeutes.
D'accord, mais donc ça veut dire qu'il y a 40% qui sont des récidivistes.
Mais dont on n'est pas sûr qu'elles soient toutes mineures.
40% sont des récidivistes. Eh bien, qu'on supprime les allocations familiales. Mais vous dites que c'est une mesure symbolique. Oui, mais l'autorité, ce sont aussi des symboles. Et c'est parce qu'on a abandonné tous ces symboles qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cadre qui tienne la France.
Puisque vous évoquez ces symboles, je voudrais vous montrer une vidéo. C'était à Marseille, hier. Des policiers déférés, soupçonnés d'avoir tabassé un jeune homme, et leurs collègues qui se donnent rendez-vous pour les applaudir au moment du déferlement. Regardez. Alors, je précise que les policiers qui ont été déférés ont été mis en examen, qu'ils sont donc soupçonnés d'avoir tabassé un jeune homme qui passait dans la rue, qui lui dit qu'il rejoignait sa petite copine à Marseille. Plus de 8 jours d'incapacité totale de travail, des indices graves et concordants d'après la justice. Est-ce que c'est remettre en cause l'état de droit que de se donner rendez-vous pour les applaudir?
Non, mais il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, voilà, la présomption d'innocence, elle existe pour tout le monde. Et si des policiers se comportent mal, ce qui peut arriver, comme dans tout corps, eh bien, ils doivent être durement sanctionnés, et ils le sont d'ailleurs. Vous savez que la police, c'est le corps d'État qui est le plus contrôlé et donc aussi le plus sanctionné. Non, elle ne me choque pas parce que je sais ce que vivent les policiers. Parce que voyez-vous, moi, lorsque je vais au commissariat de Denain ou de Valenciennes, je sais le sentiment d'abandon que ressentent nos forces de l'ordre lorsqu'ils ont entendu, par exemple, Emmanuel Macron immédiatement pointer du doigt le policier qui avait tiré sur le jeune Naël sans connaître du tout les circonstances. Le fait que les policiers se sentent abandonnés, parfois par leur hiérarchie, mais surtout par une certaine forme d'autorité politique, amène effectivement un sentiment de corps très fort.
On est d'accord, aujourd'hui, on verra bien ce qu'il y a là-dedans. Le fait de tabasser un jeune homme, par exemple, si, et je suis d'accord avec vous, il y a une enquête qui est en cours. Mais ces policiers sont
la police
en
de notre
matin,
pays doit déférée. Être exemplaire et je pense que dans 99% des cas, elle l'est. La police de notre pays, ce sont des hommes et des femmes jeunes, issus souvent de quartiers populaires qui essayent, parce qu'ils sont républicains, d'assumer, de faire assumer de l'ordre public dans des conditions extrêmement difficiles et pour des salaires extrêmement modestes. Quand il y a des gens qui se tiennent mal, ils doivent être sanctionnés à la hauteur du comportement exemplaire qu'on attend d'eux. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Quand on est dépositaire de l'autorité publique et qu'on se comporte mal et qu'on commet des actes qui ne vont pas dans ce cadre, il faut être sanctionné. De l'autre côté, sincèrement, notre police se sent abandonnée, notre police se sent, que ce soit dans les moyens, que ce soit les conditions dans lesquelles elle travaille, la situation des commissariats. Enfin, je veux dire, qui accepterait de travailler dans des conditions pareilles?
Oui, mais là, c'est pas la question. La question, c'est qu'ils sont mis en examen déféré, que les policiers applaudissent.
Oui, parce que les policiers font corps, parce qu'ils se sentent abandonnés et que, comme toute, communauté professionnelle, lorsqu'elle se sent abandonnée, elle fait corps. Donc, moi, je comprends que les policiers fassent corps. Il y a une enquête, on verra bien si ces policiers ont commis des infractions graves. Ils seront jugés et sanctionnés à la hauteur de celle-ci. Pour le reste, arrêtons de jeter l'opprobre. Vous savez, on entend la France insoumise qui, du matin au soir, salit la police, dit la police tue, les traîne dans la boue. Si les Français voyaient les débats de l'Assemblée nationale et entendaient ce que l'extrême-gauche dit sur notre police, les Français seraient révoltés. On est dans un pays qui a besoin d'apaisement et je ne crois pas que c'est en tapant sur la police qu'on arrive à cet apaisement.
Sébastien Chenu, on a appris en début de semaine des hausses significatives dans plusieurs domaines. Prix de l'électricité au 1er août, plus 10%, hausse du pass Navigo en Ile-de-France et cette réflexion autour d'une taxe sur les alcools et les vins. Est-ce que l'une de ces augmentations est pour vous justifiée?
Et vous oubliez les fournitures scolaires, plus 10%, on apprend
ce matin.
Non, ce n'est
pas une augmentation du gouvernement.
Non, ce n'est pas une augmentation du gouvernement, mais on voit bien que les Français sont dans un corner, sont dans un coin où chaque jour, ils s'aperçoivent que leur pouvoir d'achat diminue, que leur pouvoir d'achat est fortement impacté.
Mais en même temps, est-ce qu'il y a une hausse qui est justifiée, par exemple, la taxe sur les alcools et les vins?
Alors, celle sur la taxe sur les vins me semble totalement injustifiée, mais c'est vraiment la cash machine qui essaye de mettre à contribution.
C'est la lutte contre l'alcoolisme, contre
certains produits néfastes, c'est la lutte
contre la surconsommation d'alcool, disait celui qui était encore ministre de la Santé hier.
Alors, il fallait s'y attaquer il y a 6 ans, quand ils ont pris des manettes, et nous faire des vrais programmes de lutte contre l'alcoolisme, de prévention, d'accompagnement, et pas au moment où ils cherchent 14 milliards pour boucler leur budget, inventer une taxe pour aller taper les viticulteurs, les producteurs, etc., qui sont déjà soumis à une concurrence déloyale.
L'idée, c'est d'aller sur les alcools forts, dans la réflexion, puisque ce n'est qu'une piste, c'est pas une décision.
Et ce ne sont pas les alcools forts, en général, qui contribuent à l'alcoolisme. Au-delà de ça, les hausses sur lesquelles le gouvernement a la main, à le levier. C'est par exemple l'électricité. Marine Le Pen l'avait dit en juin 2022. Elle avait dit l'effet de rattrapage du bouclier énergétique va être terrible. Bruno Le Maire, qui a menti encore une fois dans la représentation nationale, dit pas du tout, il n'y aura pas d'augmentation de l'électricité. Il y a évidemment une augmentation insupportable
d'électricité. Mais il n'y a pas de rattrapage. La commission de régulation, Sébastien Chenu, disait 75% d'augmentation.
Ça fera 26% de plus. Non mais on peut retourner le problème dans tous les sens. Les Français vont payer à cause de ce gouvernement l'augmentation de leur électricité plus chère qu'auparavant. Mais il y a des solutions. Moi je regarde, quand on propose avec les députés Rassemblement National, avec Marine Le Pen, avec Jean-Philippe Tanguy qui réfléchit sur ces questions, de sortir du marché européen de l'électricité. Ça ne fait sortir d'aucun traité. Ça ne nous fait pas sortir de l'Union européenne. Ça ne nous met pas dans une situation, bancale vis-à-vis de l'Union européenne. Sortir du marché européen de l'électricité, c'est quoi ? C'est en fait sortir de l'indexation sur le gaz. Eh bien, c'est quelque chose qui a été fait dans des pays comme le Portugal et l'Espagne, avec des résultats. Il y a des moyens, il y a des leviers, il faut y aller.
8h53 sur RMC BFM TV. Merci Sébastien Chenu.
Merci.